Vous êtes sur le 105.4 et nous vous proposons d'écouter ceci.
Marie-Monique Robin, bonjour. Votre nom est connu du grand public pour les nombreux reportages et documentaires que vous avez menés au cours des 20 dernières années aux quatre coins du monde. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres en rapport avec les films que vous avez tournés, les documentaires. En particulier, le désir de débusquer les conséquences néfastes du modèle industrialo-capitaliste pour l'humanité et l'environnement vous ont mené à vous intéresser notamment à Monsanto, mais aussi à l'industrie chimique, agricole et principalement au système capitaliste. Vous avez également montré l'urgence de sortir d'un modèle basé sur la croissance et la possibilité de faire les choses autrement. C'est donc tout naturellement que vous en êtes venu à vous intéresser à la transition et au réseau sans doute des villes en transition. Votre dernier film d'ailleurs s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» et c'est la question qu'on se pose sans doute tous et pour laquelle peut-être que ce film apporte quelques réponses. Donc expliquez-nous comment vous vous êtes intéressé à ce petit village d'Ungersheim.
Ungersheim.
Ungersheim. situé à une quinzaine de kilomètres de Mulhouse. Et donc dans ce petit village, un maire en place depuis 1989 a mis en place tout un système en 21 points qui vise à mener ce village vers la transition. Expliquez-nous un peu ce qui se passe par là-bas.
D'abord, je suis tombée sur ce village tout à fait par hasard. J'ai fait, comme vous venez de le dire, un film et un livre qui s'appelait Sacrée Croissance. Le film est passé sur la RTBF d'ailleurs, qui questionnait le modèle de la croissance illimitée, de toujours plus de production, de consommation comme moteur de l'économie, et s'interroger, est-ce qu'on peut continuer à promouvoir ce modèle alors que les ressources de la planète sont limitées et que sa capacité à encaisser les déchets que nous produisons a aussi atteint un point de saturation absolument évident. C'est évidemment les pollutions sous toutes leurs formes. L'air est pollué, l'eau est polluée, les aliments sont pollués. C'est aussi les menaces qui pèsent sur la biodiversité. On parle de 6e extinction des espèces, c'est pas rien. Et puis c'est le dérèglement climatique, parce que c'est aussi une question de déchets finalement. Ce sont les gaz à effet de serre que nous produisons avec notre activité économique. Donc j'avais fait un très beau tour du monde, montrant que partout dans le monde, fort heureusement, des gens avaient compris ce que je viens de vous dire. Et j'étais allée par exemple à Toronto, au Canada, à Rosario, en Argentine, deux villes qui sont montrées en exemple pour un programme d'agriculture urbaine très réussi. Et j'étais allée aussi au Danemark et au Népal. Deux pays, là ce sont les gouvernements qui mènent une transition énergétique très ambitieuse. Le Danemark est un petit pays, mais ils n'ont pas une seule centrale nucléaire et ils pensent atteindre le 100% énergie renouvelable avant 2030, donc c'est possible. Okay. Alors j'étais allée aussi au Brésil, à Fortaleza, en Bavière, en Allemagne, où il y a des expériences de monnaie locale complémentaire très abouties, qui marchent très bien. Et puis j'avais terminé mon périple au Bhoutan, qui est un petit royaume coincé entre la Chine et l'Inde, qui a remplacé le produit intérieur brut, le fameux PIB, parce que quand on parle de croissance, c'est la croissance du PIB, par un nouvel indicateur de richesse qui est le bonheur national brut. Donc voilà, ce film est sorti sur Arte donc en novembre 2014 et ensuite j'ai commencé une tournée en France dans des cinémas et c'est comme ça que j'ai atterri en Alsace, pas très loin de Mulhouse, et un soir, 300 personnes dans la salle et un monsieur qui vient me voir à la fin et qui me dit « Tout ce que vous racontez dans votre film, nous le faisons déjà. » Voilà, dans notre commune de Ungersheim. Et j'étais un peu vexée, en fait, pour vous dire la vérité, parce que, enfin, franchement, venir faire un tour du monde et entendre qu'il y a déjà tout en France et ne pas le savoir, c'est quand même assez nul. Et voilà, je suis allée voir, et puis, effectivement, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ce documentaire, parce que c'est très complémentaire de Sacrée Croissance. Sacrée Croissance, c'est les grands principes de la transition vers une société plus durable, décarbonée, plus équitable, plus solidaire, parce que tout ça est lié, évidemment. Donc transition alimentaire, transition énergétique, transition économique, l'outil étant la monnaie complémentaire qui permet de s'interroger sur nos modes de consommation. Et à Ungersheim, il y a tout ça déjà. On voit comment la transition peut être menée dans tous les domaines qui concernent la vie quotidienne. C'est aussi l'habitat, c'est aussi le transport. Les enfants vont à l'école dans une calèche tirée par des chevaux. Et mine de rien, c'est 6000 km en moins en voiture pour les parents, c'est voilà, autant de gaz à effet de serre en moins, et puis c'est sympa pour les enfants, et puis c'est, voilà. Ils favorisent les éco-hameaux, donc des maisons qui sont passives, donc Ils ont aussi une monnaie locale qui s'appelle le radis, et puis toute une série d'actions dans le domaine de l'alimentation, hein, donc ferme urbaine, régie agricole municipale, permettant d'alimenter la cantine 100% bio, cuisine qui alimente d'ailleurs 5 autres cantines du secteur. Et voilà, et alors, la plus grande centrale solaire d'Alsace, hein, donc énorme parc solaire, éolienne, et puis un réseau de chauffage au bois et à la biomasse qui alimente tous les bâtiments municipaux. Donc c'est assez exemplaire, enfin c'est même unique en fait, parce que Rob Hopkins, qui est le fondateur du mouvement des villes en transition, est venu à Angersheim. Moi je le connaissais déjà d'avant parce que je l'avais interviewé pour mon film Sacré Croissant. J'étais même allé à Totnes dans sa ville, hein, mais il a dit qu'il n'avait jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est unique au monde. C'est unique dans le sens où il y a tout sur un même territoire et qu'on peut voir la dynamique que peut générer un programme de transition.
Bonjour.
Bienvenue à Angersheim.
Notre village est en transition.
Transition.
La transition, ça a été la concrétisation de 21 actions.
Qui se déclinent sur trois chapitres essentiels, l'autonomie intellectuelle, énergétique et la souveraineté alimentaire.
Ça vient du jardin du trèfle.
Oui, ça c'est sûr que bon, c'était un secteur de mines, donc mines de potasse, 13 000 mineurs hein, et tous les puits enfermés. Mais en même temps, c'est mis, indépendamment de cette activité de mine qui existait déjà depuis un siècle et qui a fermé, eh bien l'Alsace est devenue une terre, comme toute la France, donc toute la plaine d'Alsace, très riche d'ailleurs, a supprimé la biodiversité, les cultures vivrières, l'élevage même. Hein. Donc maintenant, c'est voilà, du blé, du maïs intensif sur des centaines de milliers d'hectares. Donc ça, c'est le phénomène de l'industrialisation de l'agriculture qui caractérise toute la France. Hein. Donc l'Alsace n'a pas été épargnée. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le conseil municipal, donc emmené par quelqu'un qui est absolument clé dans tout ce dispositif, c'est le maire, Jean-Claude Mensch, s'est dit, on est entouré, nous, de 1000 hectares de terres agricoles et elles ne nous nourrissent pas. Et ça, c'est vrai partout, dans plein d'endroits, n'est-ce pas? Donc, ce programme s'est dessiné petit à petit, porté par le maire et son conseil municipal, et donc et s'est concrétisé par un programme, donc une feuille de route avec 21 actions pour le 21e siècle, qui petit à petit ils ont donc mené à bien, en associant les citoyens, parce qu'ils ont ils pratiquent la démocratie participative. Ils ont 5 commissions participatives, alimentation, transport, habitat, énergie, éducation. L'école a été rebaptisée donc École de la Transition. Les enfants sont très associés au programme, c'est-à-dire qu'ils ont un projet à l'intérieur de l'école pour réduire leur consommation d'énergie, ils ont un jardin potager, ils ont un compost. La municipalité fournit pour les récréations des pommes bio. Les enfants vont à la ferme urbaine participer aux travaux. Ils ont un programme pour identifier les légumes, enfin, etc. Ils mangent bio à la cantine, ils en parlent très bien d'ailleurs. Enfin, donc c'est assez super en fait. Hein, voilà. Et donc, ce programme s'est mis en place petit à petit. Et d'abord est parti sur un noyau dur, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire des gens très investis. Puis petit à petit, fait tâche d'huile, hein, je viens d'apprendre parce que le maire est ici avec moi en ce moment, hein, et que depuis que le film est sorti en novembre dernier, d'abord il y a énormément de demandes de toute la France, ils y consacrent au moins 3 jours par semaine, c'est quand même énorme, pour visiter, comprendre comment ils ont fait, etc. Et dans la commune, parce qu'il y avait évidemment un noyau dur, c'est 20% des adultes, ce qui est énorme déjà, très engagés dans le processus. Puis après, il y avait tous les autres, les indifférents, enfin, voilà. Et le nombre des indifférents est en train de diminuer. Donc, et ça, c'est super. Mais c'est aussi un travail de patience, c'est ce que dit ce film. En fait, la transition, c'est un mouvement. Hein. Donc, on va d'un point A vers un point B. On met sur la table d'abord tous les enjeux, de manière très claire, dont on discute collectivement. Dérèglement climatique, épuisement des ressources, tout ce que j'ai dit déjà. Et on en parle, et voilà. Et après, une fois qu'on a identifié les enjeux, eh bien, on essaie de voir localement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ces enjeux, et tout ça dans la bonne humeur et le bonheur. Parce que c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce film, c'est qu'on voit que les gens sont très heureux de faire ça. Et c'est pas du tout l'image qu'on nous donne en général de la transition. On entend souvent, oui, la transition, c'est, ça va être du sacrifice, on va revenir à l'âge de pierre, la bougie, je sais pas quoi, pas du tout. C'est normal, quoi. Enfin, c'est des questions que tout le monde se pose. Hein. C'est, si on change, on remplace la croissance illimitée par un autre modèle, ben voilà, il y a des questions à lesquelles il va falloir répondre. Mais en même temps, on voit dans ce film que c'est pas du tout un retour en arrière, hein, oui. Du tout. Donc c'est dit très bien dans le film par un jeune vétérinaire qui a décidé de faire de la permaculture maintenant. Et il s'agit de renouer avec des savoirs qu'on a perdus et qui étaient tout à fait efficaces, en intégrant évidemment. Les savoirs contemporains. On voit dans la maison, la construction de la maison passive, des maisons passives, extraordinaire. Ouais. Hein. Moi, c'est étonnant, quoi. Alors, c'est des maisons en structure bois, remplissage paille, extrêmement isolantes, quoi. Hein. Tellement isolantes qu'en mois de février dernier, j'y suis allée, il fait froid en Alsace, il ne chauffait pas. Hein.
Ouais.
Donc, c'est quand même. Et d'ailleurs, il y a une entreprise qui vient mesurer l'étanchéité de la maison et qui est totalement bluffée, mais qui dit extrêmement performant, quoi. Ouais. Donc. Voilà, alors après, on voit aussi comment finalement, si on prend l'alimentation, c'est le fait de relocaliser la production alimentaire, de retendre vers l'autonomie des territoires, hein, ça c'est extrêmement révolutionnaire. Parce que je rappelle aujourd'hui quand même qu'un aliment acheté dans un supermarché, ce sont les données européennes, parcourt en moyenne 2700 km entre le lieu de production et l'assiette du consommateur. En Amérique, c'est pire, c'est 4000 km. Il faut être très clair, hein. Quand on ne mange pas bio et local, on contribue au réchauffement climatique. Hein. Voilà, j'aimerais bien que les politiques le disent comme je suis en train de le dire. Et on estime aussi qu'il faut 7 calories d'énergie fossile pour faire une calorie d'énergie alimentaire dans le modèle agro-industriel. Donc on dépend du pétrole pour se nourrir. C'est absolument inouï, quoi. Et finalement, on voit aussi dans ce film que quand vous encouragez la transition, ça crée de l'emploi. Parce que le résumé de tout ça, c'est quand même la commune n'a pas augmenté les impôts depuis 10 ans, a réduit ses frais de fonctionnement de plus de 120 000 euros, a réduit évidemment son empreinte écologique et ses émissions de gaz à effet de serre, évidemment, et a créé 100 emplois sur la commune en 10 ans. Parce que quand vous relocalisez la production alimentaire, ce sont des emplois pérennes, on ne peut pas délocaliser, parce qu'évidemment, tout le monde a besoin de manger 3 fois par jour. Donc, et c'est bon pour la planète, évidemment. Et puis c'est bon pour le moral, parce que c'est ce qu'on voit aussi dans le film. Hein.
Ouais.
Aussi bien l'ancien vétérinaire de 30 ans qui dit j'en ai marre de cette médecine business et tout, je veux produire des aliments de qualité, etc. Ou l'ancien agriculteur qui faisait du maïs et du blé intensif et qui maintenant fait des variétés anciennes de blé et qui dit moi je veux faire des aliments de qualité pour les humains. Aussi bien les jeunes en réinsertion dans le jardin de Cocagne, parce qu'il y a une ferme urbaine donc, qui est exploitée par une association qui fait de la réinsertion par le maraîchage bio. Voilà, la transformation de ces jeunes, plus ou moins jeunes en tout cas, qui est laissé pour compte enfin, du modèle dominant, hein, qui ont eu beaucoup de difficultés dans la vie, et qui sont transformés par cette activité maraîchère, et qui sont ravis de manger des aliments de qualité.
Thank you.
actuellement Rob Hopkins qui vient visiter la ville. Et donc il dit maintenant, il faut arrêter de présenter la transition comme une réponse à des problèmes, mais il faut la présenter comme étant quelque chose qui, comme vous le soulignez, qui rend heureux, qui fait du bien à le village, qui fait du bien à nos communautés. Et justement, cette question de la communauté, et c'est une question qui est fort utilisée aussi par, à la fois par les détracteurs, ou du fait de dire, ben, est-ce que c'est pas comme en quelque sorte un repli sur soi? Comment ça fonctionne? Parce que j'ai l'impression que quand on parle des initiatives de transition, on a l'impression d'avoir des expériences hors sol, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui sont pas en lien avec le reste de la société, et du coup que l'expérience forcément, ben, au niveau local, elle fonctionne bien, mais quels sont les liens qu'il peut y avoir entre un village ça, à part le lien d'exemple, hein,
Il y a plein d'exemples, enfin, je veux dire, c'est tout le contraire d'un repli sur soi. D'ailleurs, c'est très bien dit dans la fin du film, cette question est abordée. Vous savez, on dit toujours, on a ces enjeux, bon, qui sont énormes, j'insiste, parce que le dérèglement climatique, c'est très sérieux, hein. Et je suis frappée du déni collectif dans lequel on est toujours aujourd'hui, hein. Y compris en France, pays de la COP21. Voilà. Mais on dit qu'il faut penser global et agir local. Moi, je pense qu'il faut penser local et agir local d'abord. Et que si chaque territoire fait ça, alors évidemment en restant connecté aux autres, mais c'est là qu'on peut arriver à ce basculement dont on a besoin. Et parce que quand vous faites ça, évidemment, vous agissez global. Hein, parce que si vous arrêtez de consommer des aliments qui parcourent des milliers de kilomètres, donc c'est meilleur pour le réchauffement climatique, c'est donc meilleur pour tous les pays du Sud qui sont d'ailleurs quand même en première ligne. Hein. Le Népal, par exemple, où j'étais, hein, qui est responsable de 0,02% du CO2 qui est accumulé au-dessus de nos têtes, mais qui est en quatrième position pour les dégâts que ce dérèglement climatique cause. C'est-à-dire que moi, quand je suis au Népal, j'ai filmé un colloque sur le réchauffement climatique. Ils ont dit, s'il ne se passe rien, d'ici 20 ans, les 27 millions de Népalais doivent partir, puisqu'ils ne pourront plus produire d'aliments, rien du tout, il n'y aura plus d'eau, les glaciers auront disparu. Donc voilà, le local est extrêmement important. Moi, je me bats beaucoup pour réhabiliter le mot communauté en français. C'est très difficile en France, et je crois qu'en Belgique, c'est pareil, on pense communautarisme, donc on se dit repli sur soi, etc. etc. Alors que quand vous êtes en Amérique latine, comunidad, c'est magnifique. Quand vous êtes en Amérique du Nord, community aussi. Ce sont des gens qui partagent un lieu de vie, un territoire, et qui essaient de faire en sorte de bien vivre ensemble dans ce territoire. Et ça, c'est pas du tout ringard, c'est même très fort. Les dégâts de la mondialisation sont dus notamment à la destruction des liens. Et on a même donné un petit peu, l'idée, c'est quand même que les liens, c'est ringard, justement. Oui, et qu'il faut tous être, voilà. Bien sûr qu'il faut être connecté, etc., bien sûr, mais on va dans le mur, là. Donc, si on veut éviter d'aller dans le mur, il va falloir changer de modèle, et ça passe par une transformation individuelle, mais aussi une transformation des territoires qui, comme on voit dans le film, cette transformation est bien plus rapide et quand on a les élus avec soi. C'est ça la leçon de ce film. C'est un bel hommage aux élus locaux qui sont éclairés et courageux, comme je dis, hein, qui encouragent, qui facilitent, qui ont la vision, qui emportent les citoyens, et qui permettent aux citoyens de développer ces initiatives. Les initiatives dont vous parlez, j'en vois beaucoup partout, moi, y compris en France, mais très souvent les gens s'épuisent, s'essoufflent, parce qu'à un moment, on tourne en rond, on est toujours entre nous, et puis on se dit comment on passe à la vitesse supérieure. Mais pour passer à la vitesse supérieure, il faut aller voir les élus.
Oui.
Il ne faut pas baisser les bras. Et même si on sait bien, c'est pas évident, etc. Mais moi, j'ai vu l'impact de ce film sur les élus. Je peux vous assurer que si on arrive à les attirer dans la salle de cinéma pour voir le film, c'est très concret, le film, c'est pas idéologique, c'est très concret. Il y a une espèce de dynamique et dynamisme aussi qui sort de tout ça, absolument extraordinaire. Et les élus, encore une fois, ont le beau rôle, hein, parce que c'est eux qui portent. Eh bien, je pense qu'il faut tout faire pour essayer de convaincre les élus d'encourager ces initiatives. Et là, je pense qu'on pourra passer la vitesse supérieure. Vous voyez, et donc, du coup, aussi revendiquer notre appartenance communautaire à un lieu, un territoire. Hein, donc, ouais.
Bon, Oui, il y a une petite question qui me turlupine quand même, c'est qu'effectivement, il y a ces élus au niveau local qui sont fantastiques, qui mettent en place quelque chose de convivial, de communautaire dans ce beau sens que vous utilisez. Et pourtant, il y a un village qui vote en grande partie pour le Front National. Niveau. Et donc, comment articuler les
deux
niveaux?
Mais ça, c'est amusant ce que vous dites, parce qu'il y a 11 millions de Français qui ont voté Front National, dans des villes de gauche, de droite, dans les campagnes majoritairement. Le problème, c'est que ça n'est pas coupé du monde, justement. On n'est pas coupé du monde. Il y a un vrai problème fondamental dans tout le pays, la France, pas que la France, la Belgique aussi, si j'ai bien compris, la Hollande aussi. Etc. Et ça, c'est marrant cette question parce que tout le monde cherche des paradis, ça n'existe pas le paradis. Hein. Donc, et c'est aussi étonnant que de voir des élus, enfin des gens qui ont voté Mélenchon, 15% ont voté Front National deuxième tour. On allait leur demander pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas?
Oui, mais c'est la question.
Mais moi, j'ai pas la réponse à ça, je n'ai absolument pas la réponse. Il faut faire une enquête sociologique sur toute la France pour comprendre pourquoi les campagnes françaises ont voté majoritairement Front National, y compris dans des zones, dans des secteurs de gauche traditionnels. C'est la vérité, c'est la réalité. Plein de villes ouvrières ont voté le Front National. Donc, voilà. Alors, l'Alsace est particulièrement concernée parce qu'il y avait un grand refus de la réforme des régions. Et particulièrement en Alsace, mais partout en France, et je suis bien d'accord, cette réforme a été très mal faite, sans aucune consultation, et en plus dans un mauvais sens. Parce que si on veut réussir la transition, il faut donner le maximum de pouvoir au territoire. C'est pas en faisant des grandes régions énormes. En Alsace, c'est très mal vécu, hein, le fait d'être remarié avec la Lorraine pour plein de raisons historiques qu'on peut comprendre, et en plus la Franche-Comté, ce qui s'est traduit d'ailleurs par l'émergence d'un parti régionaliste qui était totalement minoritaire et qui a appelé à voter Front National par rejet au deuxième tour. Et puis voilà.
Mais justement, ça montre peut-être le manque d'articulation, le fait qu'il y a le niveau local, et peut-être qu'en France, c'est encore plus développé justement avec cette volonté de faire des grandes régions d'aussi
centralisées. Il y a un gouvernement ici où il y a l'extrême droite au gouvernement. Enfin, donc, expliquez-moi comment vous en êtes arrivé là. Enfin, je veux dire.
Oui, sauf que pas une ville en transition.
Non, mais ça n'a rien à voir. Excusez-moi, mais ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Et la transition, encore une fois, c'est un mouvement. Évidemment, qui n'est pas coupé de ce qui se passe ailleurs en France. Et c'est pas, on n'est pas dans un îlot coupé du reste de la France. Enfin, je trouve que ça ne change rien du tout au phénomène qui se passe en ce moment. D'ailleurs, le maire me disait tout à l'heure qu'il était très content parce que dans le secteur ouvrier de la ville, historiquement ouvrier, parce que c'était lié à la mine, le Front National a baissé. Donc voilà, il dit, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, désolé, mais je ne sais pas. N'est pas épargné par ce qui se passe dans le reste du pays. C'est pas du tout, on est transformé comme ça par un coup de baguette magique. Enfin, c'est marrant, hein, c'est marrant. Ça. C'est cette question qui revient maintenant depuis les élections.
Oui, non, c'est juste qu'effectivement, je constate que souvent, les initiatives alternatives, que ce soit...
Totnes, la ville de Totnes, qui n'est pas une ville en transition, la mairie ne porte pas du tout la transition, c'est une ville totalement à droite. Moi, j'y suis allé, je ne l'ai même pas mis dans mon film, ça fait pas sens, parce que ce n'est pas une ville en transition. Il y a des initiatives. On n'est pas en train de demander, mais pourquoi Totnes en vote à droite? Et pourquoi le maire, il ne soutient pas? C'est la vérité. Enfin, moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi il y a 11 millions de Français qui ont voté Front National. Et ça, c'est... Personne n'a répondu à cette question, personne ne l'affronte. Ça, tant qu'on n'affrontera pas, c'est des grands mouvements de fond qui sont très inquiétants. Et c'est d'autant plus d'ailleurs vertueux, je trouve, finalement, de mener ce programme de transition dans une terre de droite comme l'Alsace. Enfin, je trouve ça absolument... Parce que je connais très bien le Sangoël aussi. Bon, ils sont beaucoup moins avancés que Congassin, mais ils font plein de choses super. Un homme qui a un charisme, qui sait convaincre, rassembler, comme l'a fait Jean Colmenche, aller chercher un agriculteur qui fait du maïs intensif pour lui proposer d'être adjoint en mer, il faut le faire quand même, quand on est écolo. Et voilà, qui mise sur le temps, parce que évidemment, on ne change pas tout du jour au lendemain. Évidemment, si on part de ce principe, ça, on est foutu. Vraiment foutu.
Et si vous deviez retenir une des initiatives qui vous a le plus marqué en faisant ce film, en tournant ce film
Je pense qu'il n'y en a pas plus l'une que l'autre. Hein. Moi, ce qui m'a surtout touché, c'est la dynamique et le bonheur exprimé par les gens, quel que soit leur âge, leur profession, contents de, enfin, qui sont très contents de faire ce qu'ils font et qui en parlent très bien. Moi, souvent, on me dit si j'avais écrit le texte des gens, je dis non, c'est vraiment des gens qui parlent tout seuls. Hein. Moi, je leur pose des questions, ils me répondent. Et ça, c'est assez, assez étonnant. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part, en fait. Jamais. Et pourtant, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai travaillé sur ces questions depuis très longtemps. J'ai jamais vu ça. Ouais, ils sont tous habités par quelque chose, et ça, c'est quelque chose qui a du sens, en fait. C'est la question du sens, en fait. Et l'envie de travailler pour le bien commun, ce qui est quand même devenu très, très rare. Donc ça, c'est assez... C'est très puissant.
Je pense que pour transformer la société, il faut d'abord se transformer et le montrer.